Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue, vous êtes bien sur Radio Barthas et sur Radio Intervalle. Bienvenue sur nos radios associatives, pourquoi ? Nous sommes à Anduze en direct pour la journée du parc. C'est toujours un bonheur et un plaisir d'aller à la rencontre de ces personnes passionnées, passionnantes. Venez, si vous êtes sur la route, arrêtez-vous à Anduze, cette charmante petite ville. Et pour co-animer cette émission, j'ai la chance et le bonheur et le plaisir d'être avec Natacha. Bonjour Natacha.
Bonjour Ben, bonjour à tous.
Bah ça y est, c'est parti. Je te laisse la parole.
Eh bien, c'est parti. Et donc, pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Vincent Clignès, directeur du parc. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Et de Geneviève Blanc, maire d'Anduze, qui nous accueille ici dans son bureau. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Vincent Clignès, c'est votre première journée, non pas dans le parc, mais avec le parc.
Tout à fait, la nuance est légère. Je suis arrivé effectivement au poste de directeur le 1er avril, et ce n'est pas une blague, exactement dernier. Donc un peu moins de 6 mois. Par contre, effectivement, cette journée annuelle du parc, c'est ma première. Très, très heureux d'être là, de découvrir ce territoire, de continuer à le découvrir, puisque ça fait 6 mois quand même que je commence à l'arpenter. Beaucoup de choses à apprendre encore. La journée du parc, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, je trouve, parce que dans une mission d'un établissement public, d'aller au-devant des usagers, des habitants du territoire, puisqu'on est très impacté sur le territoire, on est très présent, se faire connaître, c'est remercier aussi le travail qui est fait localement, parce qu'effectivement, le parc, sans les élus des territoires, sans les associations des territoires, sans les différents acteurs, je ne vais pas tous les lister, et ben, ce ne serait pas grand-chose. Et c'est bien pour ça, parce qu'on arrive à travailler ensemble, qu'on fait de belles choses sur le territoire. Et donc, pourquoi Anduze ? Parce qu'on choisit souvent quand même des villes qui sont aux portes du territoire. C'est une ville-porte, on dit ça, c'est-à-dire on entre dans les Cévennes par Anduze, par d'autres endroits évidemment, mais par Anduze en particulier. Et donc il y a tout un travail de fait pour préparer cette entrée vers le parc des Cévennes, ce joyau, j'allais dire. Moi je le découvre depuis 6 mois avec beaucoup de plaisir, ce joyau partagé par un certain nombre d'usagers. Voilà, et donc on est très heureux de faire ça. Cette journée, elle est à destination en premier lieu des habitants d'Anduze et des habitants des alentours d'Anduze, parce qu'effectivement, il y a toujours besoin, parce que le parc des Cévennes est connu, mais pas forcément dans ses missions, pas forcément dans ses activités. Et je trouve qu'il est très intéressant de s'arrêter une journée et de profiter pour fêter nos victoires, parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble, et je pense que Madame le maire va en parler, et on en est, je veux dire, globalement tous très fiers. Et puis c'est bien de le mettre en valeur, de répondre aux questions, d'exposer des photos, ce sera évoqué, mais voilà, il y a vraiment des choses très, très, très sympathiques. Et aussi de vanter les produits du pays, et on a des super produits. Donc voilà, j'en fais un peu de pub pour tous les collègues qui vendent leurs produits sur place, et toute l'année bien évidemment au sein du parc. Donc voilà l'objet un peu de cette belle journée.
Donc Geneviève Blanc, donc cette journée à Anduze, voilà, c'est l'occasion de mettre en lumière le partenariat entre le parc et les communes qui ont adhéré à la charte du parc. Et Anduze est quand même un bon exemple de l'engagement des communes dans ce projet de territoire.
Effectivement, donc Anduze, comme vous l'avez dit, porte des Cévennes, est une cité touristique également. Et entre ce carrefour, entre la plaine et la montagne, c'est toujours un lieu d'échange et de partage entre les différentes populations qui transitent par Anduze. Et donc c'est un plaisir pour nous d'accueillir la journée du parc, qui est effectivement une journée importante pour l'établissement public et importante pour le territoire. Et puis c'est vrai que c'est cohérent pour notre équipe municipale, puisque depuis que nous sommes élus, effectivement, nous nous appuyons sur la charte du parc national des Cévennes pour avancer sur des sujets qui sont des sujets un peu de société, mais des sujets dont on s'est emparé avec l'aide et l'appui méthodologique du parc et avec les valeurs qu'il porte. Alors ça concerne l'éclairage public, par exemple, où on a réduit de moitié à peu près l'impact de l'éclairage public, avec 52% d'économie d'énergie. Mais peut-être que si on n'avait pas été accompagné par le parc, on s'en serait tenu à les économies d'énergie. Alors que avec le partenariat avec le parc, on a été encouragé à créer une commission participative de citoyens pour travailler sur cette question, à faire le lien avec le jour de la nuit, avec des événements, et du coup à prendre en compte, au bout du compte, pas seulement les économies financières et d'énergie, mais la biodiversité réalité, c'est-à-dire que tout ce que l'éclairage de nuit a comme impact sur la faune et la flore et sur notre, du coup, sur notre bien-vivre en journée également. Donc voilà, ce lien avec la réserve étoilée du parc, c'était aussi important et c'est d'autant plus important que ça permet à chacun de se saisir de ces sujets importants et de les vivre positivement. On n'est pas dans de l'écologie qui supprime, on est dans de l'écologie qu'on découvre et pour mieux vivre le territoire. Et ça nous paraît très important d'être accompagné là-dessus. Puis c'est vrai qu'on a aussi intégré les axes, les orientations du parc dans notre PLU, notre plan local d'urbanisme, qui est un document d'urbanisme communal qu'on a révisé depuis 2020, ça y est, il est voté. Ça veut dire comment on intègre, comment on étale moins sur l'urbanisme, comment on préserve les zones naturelles, tout en continuant quand même à vivre, comment on préserve l'agriculture. Grosso modo, comment garder un territoire résilient qui va peut-être mieux amortir les évolutions et les dérangements climatiques auxquels nous avons affaire, tout en restant attractif. Tout ça, c'est fondamental et c'est des choses qui sont aussi portées par le parc et qui a suivi notre PLU. On a aussi fait réduire les publicités, les grands panneaux publicitaires. Pareil, avec une commission de citoyens qui permet de faire un travail beaucoup plus fin que s'il n'y avait que un élu ou deux qui s'en occupent. Donc voilà, on avance comme ça. Et également, on est pilote d'un site Natura 2000. Et donc ça nous permet de faire une coordination sur cette veille environnementale que nous faisons, qui concerne aussi le pastoralisme sur cette zone Natura 2000. Et ça nous permet de travailler ensemble sur ces questions-là. Voilà comment un site particulièrement observé et préservé permet aussi d'anticiper justement des manières de cultiver, des manières d'appréhender la faune et la flore en fonction, comme on disait, aussi de l'évolution de nos territoires, notamment avec le climat.
C'est d'autant plus important, si je comprends bien, parce que vous êtes impacté directement par le... C'est pas grave, le téléphone sonnera, on répondra plus tard. C'est d'autant plus important, je disais, parce que vous êtes impacté directement par le changement climatique, puisque vous avez été, entre guillemets, victime d'une inondation assez tragique. Donc, c'est vraiment des conséquences directes. Vous les voyez tous les jours, donc c'est important pour vous de continuer ces partenariats. Et est-ce que vous allez réussir, en fait, à changer les choses grâce au parc national? Croisons les doigts.
Alors, il faut quand même dire qu'à Anduze, on avait un peu d'avance sur les questions d'inondation, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des inondations à Anduze, plus ou moins meurtrières selon les fois. Donc on est déjà, la population est déjà, enfin il faut toujours continuer à sensibiliser, mais il y a quand même une conscience collective qui est un peu plus importante ici peut-être qu'ailleurs. Néanmoins, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on réfléchit à ces problèmes de changement climatique et d'inondations qui vont peut-être se rapprocher. Elles seront peut-être pas pires, mais peut-être se rapprocher. Comment on crée un territoire, comment on fait pour que le territoire les encaisse le mieux possible et prenne en compte cela pour se développer quand même, quoi. C'est surtout ça. Et ne tombe pas dans la maladaptation. C'est-à-dire que, voilà, c'est peut-être pas des travaux pharaoniques qu'il faut faire pour faire d'Anduze un territoire adapté au changement climatique. Voilà. Et c'est là où le parc peut aider dans son concours et dans son approche, quoi.
Je vous rejoins totalement sur cet aspect, notamment des inondations. C'est que pendant des années, voire des siècles, On s'est éloigné de la rivière, on a mis des barrières, on a mis des digues, et donc on a accéléré le mouvement. Et aujourd'hui, c'est un retour du contact à la nature. D'ailleurs, la nature et l'homme ne font qu'un, hein. L'un et l'autre sont indissociables. Et je trouve qu'effectivement, avoir cette réflexion sur ce qu'on appelle les solutions fondées par la nature, ce qu'on appelle sur redonner des espaces de liberté aux cours d'eau, permet d'éviter et de jouer l'espace, enfin de jouer tampon pour pas accélérer ce qu'on a fait pendant des années malheureusement, et avec les conséquences qu'on a malheureusement connues ici et ailleurs. Donc vraiment, c'est l'état d'esprit d'un changement de paradigme vis-à-vis de l'eau, qui est vraiment très important à intégrer, et je crois qu'effectivement le travail qu'on mène ensemble est tout à fait fructueux en la matière.
Je vous remercie. Je pense que les discussions pourront se poursuivre ce soir, puisqu'à partir de 19h, il y aura un apéro-débat, donc en présence notamment de vous deux. Donc ce sera à 19h, salle Rohan, rue Pellicot. Et je tenais aussi à remercier tous les bénévoles que vous nous avez mis à disposition. Il y a une dizaine de personnes qui sont aux côtés des agents du parc pour l'organisation de cette journée. Donc un grand merci. Et à ce soir.
À ce soir.
À ce soir.
On va continuer de parler de cette belle journée en recevant en plateau le temps que ça change. Ça va prendre, allez, on va dire 10 secondes. Cécilia Simonet, qui est musicienne, et Béranger Rémy, qui est ornithologue.
Béranger. Ah, pardon,
non,
excusez-moi.
J'espère que je l'ai plus. Normalement, tout va bien se passer. On vérifiera à l'enregistrement. Et Émilien Hérault, qui est avec nous sur la mission de suivi des rapaces. Émilien, tu es déjà avec nous. Bonjour Émilien.
Bonjour.
Oui, non, tu vas arriver, tu vas voir, ça va bien se passer. Ah ben voilà, c'est ce qui s'appelle les aléas du direct. Ah, le micro n'était pas allumé. Bonjour Émilien.
Bonjour.
Et ben voilà, on y est, mais en même temps, c'est nous qui t'avons fait une blague. comment ça se passe cette petite journée là? T'es arrivé toi ce matin?
Eh ben bien, montage des stands ce matin avec les bénévoles, effectivement, qui sont venus nous prêter main forte. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Plusieurs sorties ont été effectuées. Et puis on attend le public nombreux cet après-midi pour présenter nos missions et expliquer un peu notre travail sur le territoire.
Et donc à 16h sur la place des Troubadours, la compagnie L'Araignée au plafond présentera le spectacle Ocels, je prononce bien?
Oui.
Qui signifie oiseau en occitan. Alors il traite de l'érosion de la vifaune. Donc nous allons en parler avec Cécilia Simonet, musicienne, Béranger Rémy, ornithologue. Donc vous êtes tous les deux membres de la compagnie L'Araignée au plafond, et donc Émilien Hérault. Alors c'est un spectacle à trois voix. Hein. Vous êtes accompagné de Solène Razera, qui est conteuse. Alors comment évoquer le déclin des oiseaux, leur importance, la nécessité de les préserver en associant à la fois le conte, la musique et les connaissances scientifiques? Dites-nous.
Alors au départ, c'était pas forcément notre but de parler de l'érosion d'abord, mais du lien, c'est-à-dire du lien qui a été créé depuis, on ne sait même plus, entre les oiseaux et les hommes. Et ça se voyait beaucoup à travers les chants. Alors, moi, je suis musicienne et chanteuse spécialisée dans le domaine des musiques traditionnelles de l'espace occitan. Et puis, par ailleurs, je suis passionnée par les oiseaux de par ma famille. Et je me rendais compte qu'à travers les chansons, il y avait toujours la présence d'un oiseau, que ce soit la louette, le rossignol, la perdrix, etc. Chaque oiseau a une symbolique dans la poétique des chants. Et ça me touchait beaucoup. Et je me disais, ce lien, non seulement il a disparu, mais en plus de ça, quand on parle d'alouette à quelqu'un, on ne sait pas trop de quoi on parle finalement. Donc au départ, c'était plus de raconter, de re-raconter, de refaire vivre ce lien à travers des chants, à travers des contes et à travers aussi ce qu'on appelle, alors là je pense qu'on l'a complètement perdu, les mimologismes, c'est-à-dire à travers le cri d'un oiseau, on va les gens s'amuser à interpréter ce qui était dit. Donc par exemple, le rossignol va dire la vigne pousse, 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 il y aura du bon vin. Et c'était vraiment le cri associé à toute une histoire, ce que ça racontait. Et ça, il y en avait beaucoup. Il y a des collectages qui ont été faits dans les années juste après-guerre. Et puis, ça a été petit à petit complètement oublié, en même temps que la reconnaître un oiseau, ne serait-ce que juste un rouge-gorge. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, une alouette. Mais voilà. Et donc, ce lien-là, on se rend compte qu'il, non seulement il se défait, mais en plus, il est de pair avec La catastrophe.
Avec l'érosion des oiseaux, donc c'est l'érosion d'une culture orale, d'une mémoire, enfin voilà.
Et je disais sur le site du ministère de l'Environnement qu'en 30 ans, il y a 420 millions d'oiseaux qui ont disparu.
Oui, tous ces chiffres, enfin il y en a plein qui sortent, 30% de perte de biodiversité d'oiseaux sur 30 années. Il y a une étude européenne qui est sortie l'année dernière qui annonçait, moins 25% d'oiseaux entre 80 et 2017. Enfin, tous les chiffres, ils vont dans le même sens, ils sont à peu près tous du même acabit. Quand on parle des oiseaux, puis quand on va parler quand on va regarder du côté des amphibiens, par exemple, c'est encore pire. Quand on regarde les insectes, c'est une catastrophe. Et tout ça se passe devant nos yeux, et puis on est dans une indifférence qui est inquiétante, en fait. Quoi.
Alors, on comprend bien, il y a le réchauffement climatique qui fait partie, les changements climatiques qui fait partie de ces disparitions. Est-ce qu'il y a d'autres explications? Je pouvais lire, par exemple, est-ce que les pesticides ou ce genre de choses pourraient être l'une des raisons aussi?
Alors, les gens qui font ces études, ils regardent aussi qu'est-ce qui se passe, quelles espèces disparaissent en premier, le plus, et ce qui est une évidence dans tout ce qui sort, c'est que c'est les espèces des milieux agricoles qui disparaissent les premières, et les espèces migratrices. Quand on est insectivore du milieu agricole, quand on est migrateur, on cumule tout et on a toutes les chances de disparaître bientôt. Malheureusement. Et du coup, la première des causes, c'est les pratiques agricoles, l'agro-industrie, l'agriculture intensive, on l'appelle comme on veut. Ça, c'est une des raisons évidentes de perte du vivant. Et après, il y a le réchauffement climatique, il y a l'urbanisation, c'est multifactoriel, tout ça. On en parle dans le spectacle, on l'évoque. Et du coup, on fait ce constat-là et ça nous paraissait important de le dire à travers un moment un peu... De retrouver aussi de la poésie, de la beauté, reparler aussi de la beauté, parce que aussi, malgré tout, c'est aussi un patrimoine naturel qui s'en va. Et ça nous paraissait important de le rappeler.
Ornithologue et musicienne, comment vous avez travaillé ensemble à votre spectacle?
Et une conteuse.
Et une conteuse.
Qui est en train de préparer.
Vous êtes trois en tout sur le spectacle, c'est tout à fait clair. Comment vous avez justement réussi à articuler ces trois domaines, conte, musique et ornithologie?
Alors, c'était pas évident parce qu'il a fallu faire deux choix. Justement, il y a tellement de choses qui sont racontables sur ce sujet que, on aurait pu faire plein de versions différentes. Donc, il a fallu faire des choix sur les contes, justement, sur les espèces dont on parle. Et on a privilégié donc les espèces d'oiseaux qui sont plutôt sur la zone, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais sur la zone, on va dire, des Cévennes ou du parc. Donc beaucoup...
On parlait sous couvert, j'adore.
Donc, en grande partie des rapaces, mais pas que. Il fallait aussi faire des liens avec les espèces qui sont évoquées dans les contes et dans les chants que je chante et les petits mimologismes dont je vous parlais. Et puis, on s'est fait aussi accompagner par deux personnes. La première, c'est Justin Pivetot, qui est naturaliste, dessinateur du vivant. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc, qui a fait pour nous quelque chose d'assez magnifique. C'est 70 illustrations d'oiseaux qu'on affiche et avec lesquelles on joue, parce qu'on est aussi tous les trois des joueurs. Donc on joue avec ces cartes qu'on affiche.
C'est ça qui fait le lien, je pense.
Voilà, le fait de jouer aussi avec les mots de ces... Enfin, Ticodrome, Échelette, certains noms d'oiseaux, c'est juste eux-mêmes de la poésie. Et puis la personne aussi, la cinquième personne qui nous a beaucoup aidé, c'est Zoé Duponchel, qui nous a aidé à mettre tout ça en place, parce que c'est pas évident justement de faire des choix. On aurait voulu raconter plein d'autres espèces, mais c'est compliqué.
On fera un volet 2.
Voilà, c'est ça.
On parlait donc de l'érosion des oiseaux. Émilien, tu es un peu spécialiste quand même des rapaces sur le territoire du parc. Alors, quelle est la situation sur le territoire du parc?
Alors, au niveau des rapaces, les rapaces bénéficient d'une protection depuis les années 70. Donc, c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui d'avoir des résultats parce qu'on est plutôt sur une phase remontante des populations. Ça se passe plutôt bien, mis à part quelques espèces comme par exemple les busards qui nichent au sol et qui sont liés à ce qu'on disait tout à l'heure aux pratiques agricoles, à la perte d'habitat. C'était un oiseau qui nichait dans les landes naturelles, un peu en zone humide aussi. Donc on sait que ces milieux ont disparu. Malheureusement, ils se sont afféodés aux cultures céréalières. Et puis après, on sait ce qui se passe quand ça moissonne. S'il y a plus ou moins de retard sur les cultures, les jeunes passent à la moulinette. Donc les rapaces ne seraient pas le premier groupe à être regardé pour l'érosion de la biodiversité, parce que, comme je le disais, on est sur une phase ascendante. Ça se passe plutôt bien, on va dire, sur l'ensemble des rapaces. Par contre, on a des inventaires de points d'écoute sur les passereaux. Donc là, on a fait une première vague en 2014, où on a compté plus de 1100 points sur le parc. Donc 1100 points d'écoute, toutes placées sur un carré d'un kilomètre carré. Donc toute la zone cœur est comptabilisée. Et là, on va avoir un premier pas de retour, là, puisqu'on est attaqué cette année, 10 ans après. La même phase, on va recompter ces 1100 points et on va pouvoir voir s'il y a une évolution. On a déjà remarqué qu'il y avait des espèces plutôt méditerranéennes qui étaient bien remontées en montagne. Donc là, on peut déjà dire que au niveau du réchauffement climatique, comme la fauvette mélanocéphale, on la retrouve maintenant jusqu'à 900 mètres d'altitude assez facilement sur le bassin méditerranéen, ce qu'il n'y avait pas avant. Puis après, en fonction des résultats, ce comptage va durer jusqu'en 3-4 ans encore. On va pouvoir avoir une première phase d'analyse.
J'avais lu que les rapaces étaient une des espèces indicatrices de la santé d'un écosystème. Comment on peut l'expliquer ? D'ailleurs, est-ce que l'information est bonne et est-ce que ça s'explique ?
Plus ou moins bonne. On peut dire que sur certains... Si par exemple, si on prend l'espèce l'aigle royal, qui est un super prédateur, qui est en haut de la chaîne, c'est sûr que s'il est présent sur un milieu, c'est que le milieu se porte plutôt bien quand même, puisqu'il est en haut de chaîne, il est là pour réguler les animaux malades, les plus chétif, et il a un territoire qui ne va pas bouger, il a toujours le même territoire, la même surface, donc il est important pour lui que son milieu soit dans de bonnes conditions. Après, tous les rapaces ne sont pas bio-indicateurs, mais il y a quand même des espèces comme l'autour des palombes, il est plutôt synonyme de forêt ancienne, avec des gros arbres, peu de changements dans la pratique forestière. Si on dégrade vite par une coupe, si on ne respecte pas son cloisonnement, sa zone confinée, ouais, il ne va pas apprécier. Donc chaque espèce va être indicatrice de quelque chose. C'est pas forcément indicateur de... Par exemple, si on prend les lagnons blancs, qui est un rapace qui arrive un peu partout en France, qui évolue beaucoup, on sait qu'il peut nicher dans une haie qui a été coupée à l'épareuse à côté des céréales. C'est pas une espèce forcément exigeante. Donc tous les rapaces ne sont pas bio-indicateurs.
Et il y a un suivi spécifique. Le parc a un enjeu important dans le suivi, la connaissance des rapaces. Donc il y a vraiment une méthode de suivi que vous réalisez tous les ans. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ?
Tous les ans, on va recenser les aires de rapaces selon les espèces. Par exemple, les aigles royaux ont plusieurs aires de nidification. Ils vont en choisir une année, une autre l'autre année. Donc le but du jeu, ça va être de trouver ce nid et de pouvoir après instaurer une zone de sensibilité majeure, c'est-à-dire un périmètre de quiétude que l'on va transmettre ensuite aux propriétaires, soit privés, soit à l'ONF, soit pour les manifestations quand il y a des demandes de courses, de n'importe quelle manifestation, on va pouvoir faire dévier le trajet pendant la période de reproduction. Donc on fait ça sur l'aigle royal, l'aigle beauté, l'autour des palombes, la chouette de Tegmal, le cirquet de Jean Leblanc, faucon pèlerin, hibou grand-duc, busard Saint-Martin, busard cendré, chouette chevêchette. Donc ça demande un gros boulot de la part des gardes moniteurs. On a tous sur nos territoires plusieurs espèces à suivre et c'est un gros boulot printanier qui dure jusqu'à l'envol des jeunes, donc ça demande du temps, mais c'est passionnant.
Le temps passe tellement vite, j'ai encore 12 000 questions à poser, allez-y.
Parce que moi je travaille aussi beaucoup sur les rapaces, je suis chargé de mission
de nature que c'était ma question justement, Gange et Sumène, donc qu'est-ce
on
que...
On travaille, j'ai l'occasion de travailler beaucoup avec le parc national sur les suivis d'aigles royaux notamment, on a aussi de l'aigle de Bonnéni là-bas, du vautour percnoptère, enfin pas mal de rapaces sur lesquels on porte beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et c'est un peu les espèces parapluies, on les appelle, quand on protège les espèces, on protège aussi tout le reste de la biodiversité. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est qu'on a passé, on met aujourd'hui beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie sur ces espèces, et c'est bien, et on a bien travaillé, parce que ça fait 40 ans qu'on fait ça, et aujourd'hui on a des résultats, parce que ça fait 40 ans qu'on y est, à sécuriser des poteaux électriques, à protéger les nids pour pas qu'il y ait des dérangements, etc. Et ce que j'ai envie de dire, c'est si on mettait les mêmes efforts, la même intention, la même énergie sur les espèces qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple, le bruant ortolan, qui est une espèce qui est en train de disparaître sous nos yeux à une vitesse phénoménale en ce moment là sur les causes notamment, mais aussi dans les garrigues, eh ben peut-être que, enfin voilà, c'est peut-être dans ce sens là qu'il faudrait aller faire un peu un plan Marshall du bruant ortolan pour et quand on protégera le bruant ortolan, on protégera aussi tout le reste qui vit autour, quoi.
C'est qu'il y a une hiérarchie des espèces à suivre qui était faite parce qu'on pouvait pas tout faire et que finalement les rapaces c'était une priorité.
Il y a le PNA sur la pigrièche méridionale, oui. Il y a quand même des choses qui bougent. Là, je pense que ces inventaires sur les passereaux vont pouvoir déterminer des choses derrière. C'est quand même, il n'y a pas que les rapaces, heureusement. On fait aussi les suivis sur les crevisses à pattes blanches. Il y a plein de choses qu'on suit pour voir l'évolution. Et on voit que ça évolue mal sur certains groupes, quoi. Donc c'est sûr qu'après, il va falloir prioriser sur d'autres choses. Mais tout à fait, c'est sûr qu'il faut regarder le reste. Et que c'est vrai que les rapaces font parapluie pour les autres. Mais
il faut continuer aussi pour les rapaces. Hein. Oui. Faut pas s'arrêter là quand même.
Cécilia, comment vous vous sentez là, quelques minutes de prendre...
Moi, c'est toujours très très bien. Non, je me disais que j'étais particulièrement contente de faire le lien avec une journée autour du parc, parce que bon, non seulement on a été aidé, on a été subventionné par le parc justement pour les dessins dont je vous parlais de Justin Pivotot, et je trouve très intéressant de faire des rencontres entre naturalistes ou spécialistes du terrain et artistes, et j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus.
Mais on a l'impression, voilà, que ça se développe quand même.
Oui.
Et c'est vrai que l'art pour sensibiliser, j'allais dire le jeune public, mais pas que, ça marche aussi.
Oui. C'est l'occasion pour moi de saluer le réel CPIE 48 qui font les papillons fringants tout l'été, donc qui mettent des naturalistes et des artistes ensemble. Et c'est vrai que c'est des initiatives assez exceptionnelles et géniales.
Donc je rappelle le spectacle au sel, donc à 16h sur la place des...
Alors, c'est peut-être pas sur la place des Troubadours, parce qu'on voit passer des parapluies. Donc, ça sera soit sur la place des Troubadours, soit à la salle du 1000 Club, qui est juste à côté.
Très bien, je note.
Comme on ne sait pas s'il va pleuvoir, faire du vent, etc., et que finalement, nous, on a quand même du matériel qui est sensible. Voilà, c'est donc soit l'un, soit l'autre. Place des Troubadours ou salle du 1000 Club.
Très bien. La capacité de s'adapter, ce qu'on va devoir faire de toute façon avec ce qui va nous arriver.
Je rajouterais que vous avez aussi la possibilité d'apprendre à confectionner des nichoirs à oiseaux et découvrir les missions de suivi de la nature. Donc cet après-midi jusqu'à 16h sur la place couverte, et vous serez, Emilien, tu seras présent.
J'y serai pour expliquer les suivis et puis fabriquer quelques nichoirs ensemble.
Eh bien, merci et merci. Bon spectacle.
Merci beaucoup.
Merci.
On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans 5 minutes. Vous êtes bien sur Radio Bartas et sur Radio Intervalle en direct.
J'aurais bien voulu pour passer le temps te serrer dans mes bras amicalement, mais le temps qui passe n'est pas à tes yeux un argument apparemment suffisant. Alors je reste à ma place et tu restes à ta place, mais quitte-moi cet air suffisant. Alors tu restes à ta place et je reste à ma place en attendant vivement le printemps. J'aurais bien voulu t'enlever en voyage une croisière de rêve au pays des mirages. J'ai cherché un paquebot, c'était la galère. Les rames étaient trop courtes pour atteindre le niveau de la mer. Alors je reste à ma place et tu restes à ta place. Je ne voudrais pas avoir l'air suppliant, mais si je reste à ma place quand tu restes à ta place, à l'automne on attendra le printemps. Agir virilement, me jeter sur toi, t'arracher tous tes vêtements. J'ai su rester digne, ou alors un peu niais. J'en bouffe encore ma casquette et j'ai du mal à digérer que je suis assis en face et pas à tes côtés. Qu'à tes côtés y'a plus de place et je ne peux pas rester. Même si c'est juste en face, c'est juste pas assez. C'est pas juste tout court et je me sens comme condamné. J'aurais bien voulu avoir une pêche d'enfer, te sourire sincèrement, te dire
ouais ça va super.
J'ai du mal à mentir, et surtout quand c'est pas vrai. J'ai l'ego dans les chaussettes et l'ego date sur le point de craquer. J'aurais bien voulu être un de ces gars qui ne craint ni la pluie, ni la nuit, ni le froid. Au menton carré, qui ne pleure jamais. Et qui s'en va sans regret. Qui s'en va sans regret. J'aurais tant voulu qu'on en reste là. Tourner les talons, merci, ciao, basta. Mais j'ai le cœur en mousse
et la tête en bois.
Même si j'ai la frousse,
ça ne m'empêchera pas
de traverser la brousse, de braver l'effroi, de tendre le pouce pour partir avec toi. Même la main retrousse ne m'arrêtera pas jusqu'à ce que tu m'ouvres la porte de tes bras. J'aurais bien voulu être un de ces gars qui ne craint ni la pluie, ni la nuit, ni le froid. Au monde carré, qui ne pleure jamais. Qui s'en va sans regret.
Qui s'en va, qui s'en va sans regret.
Qui s'en va, qui s'en va sans regret.
Vous êtes bien sur Radio Bartas et sur Radio Intervalle en direct de la journée du parc. Nous sommes à Anduze. L'occasion aussi pour moi de remercier Léo qui est à la technique et Natacha est toujours avec moi.
Toujours, oui.
C'est un peu frustrant parce que c'est vrai qu'on aimerait poser plus de questions à nos invités.
Et, ça passe très et, vite, mais, passe. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Ça passe très vite, je te laisse la parole.
Et donc, nous allons parler maintenant de production locale. Donc, il y a un marché avec quelques producteurs bénéficiaires de la marque Esprit Parc National sur la place couverte jusqu'à 18h. Vous pouvez y trouver des châtaignes fraîches, des champignons, des oignons grillés aussi. Bref, des produits de saison. Et parmi ces producteurs, nous accueillons Éric Brunet. Bonjour.
Bonjour.
Et je suis également, nous sommes également avec Viviane de Montaigne, qui est chargée de mission agri-environnement au Parc National. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter, monsieur Brunet ? Donc vous êtes, vous résidez à Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, au Mas de Lay.
C'est cela. Alors, une petite exploitation de 5 hectares au Parc, sur laquelle principalement on a du châtaignier. Et cette châtaignerie qui est cultivée bien sûr sur une zone à 400 mètres, donc zone limite du châtaignier en Cévennes, nous permet de faire une production d'une tonne à peu près de châtaignes, ce qui n'est pas très important, et que l'on transforme en grande partie en crème de marron, marron naturel, sirop de châtaigne.
C'est votre activité principale ?
C'est devenu mon activité principale parce qu'au départ j'étais enseignant dans un lycée agricole, et puis arrivé un certain temps, j'ai pris un peu plus d'aisance. Et maintenant, je suis agriculteur.
On parle toujours bonne saison, mauvaise saison. Alors pour vous, est-ce que c'est une bonne saison ?
Je dirais que c'est une bonne saison parce qu'on a eu des conditions climatiques qui permettaient aux châtaigniers de produire correctement avec de l'eau. Malheureusement, la nature est là. Elle nous a envoyé les petits ravageurs, hein, le carpocaps, etc. Et on retrouve pas mal de fruits qui sont abîmés.
Alors c'est génial parce que la châtaigne, vous l'utilisez, vous la plantez, vous l'aimez, je suppose,
ouais,
aussi.
C'est un châtaignier fabuleux. Ouais.
Comment on explique que ça se soit perdu en Cévennes alors que c'était ce qui a permis au Cévennes de ne pas connaître la famine. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
L'exode rural, parce que c'est difficile de cultiver du châtaignier. On est dans une zone de montagne, hein, dite de montagne, parce qu'au niveau des normes agricoles, et on est en pente, il faut savoir travailler dans la pente, il faut savoir marcher beaucoup, monter, etc. Et ça, c'est très difficile, ça demande des efforts importants. Et dans les années 50, la châtaigne n'était plus à la mode, c'est, les gens n'en voulaient pratiquement plus consommer de la main, c'est pas quelque chose qu'on consommait beaucoup. Donc petit à petit, ça, plus les problèmes de ravageurs,
eh bien, on s'est retrouvé avec une production qui a été entièrement abandonnée.
Et puis aussi peut-être que, enfin en tout cas nous en Lozère, un peu plus de bois pour des scieries, etc.
Oui, bien sûr, ça aussi, bien sûr. Bien sûr, oui, c'est devenu petit à petit, on a cherché la facilité en fait. Comment exploiter le châtaignier, comment tirer un revenu d'une châtaignerie sans avoir un travail laborieux qu'est la récolte des châtaignes.
Alors justement, qu'est-ce qui pourrait donner envie aux jeunes aujourd'hui de travailler châtaigne? Vous, qu'est-ce que vous donneriez
Alors premièrement, c'est un métier où on est dehors, c'est le métier d'agriculteur, on est dehors. On travaille dans une châtaignerie, on est travaillé très proche de la nature, de ce que peut faire une forêt naturelle en fait. Hein. On est sous des arbres qui sont très magnifiques, qui peuvent avoir plus de 100 ans. Et donc on va avoir obligatoirement toute la biodiversité au contact de cette biodiversité, ça c'est fabuleux quoi. Et puis après, une certaine liberté de choix. Et puis maintenant, surtout, on a beaucoup de structures, d'infrastructures qui nous permettent de transformer cette châtaigne et en même temps de la commercialiser. Ce qui est fabuleux parce que ça permet d'avoir des débouchés sans avoir à passer par tout un système de commercialisation qui est long et qui permet à l'agriculteur, en plus, du moment qu'on va transformer, de mieux valoriser le produit.
Vous voulez transformer, vous ?
Cuma des Pins des Dix.
D'accord, oui, c'est une Cuma où beaucoup de producteurs se rendent,
ouais.
C'est un bel outil.
C'est un très bel outil, c'est un très bel outil. Donc c'est les coopérateurs, on est majoritairement tous agriculteurs. Et on va, donc chaque année, on va réserver une journée, sur une ou deux journées, ça dépend de la production que l'on a. Et dans cette journée, donc, on va pouvoir utiliser toutes les machines qui sont entièrement aux normes. C'est un laboratoire entièrement normalisé, normes européennes. Et c'est l'agriculteur avec son équipe qui va transformer ses produits dans sa totalité.
Vous avez la récolte, c'est quand chez vous ?
Alors, la récolte, elle peut commencer le 4 septembre. Cette année, on a un petit peu de retard. J'ai commencé en début de semaine, là. Là, on a une quinzaine de kilos de récolté, ce qui m'a permis d'en avoir un peu sur le marché aujourd'hui. Et ça va s'étaler jusqu'au mois de novembre.
Donc, c'est que vous avez plusieurs variétés.
Bien sûr, bien sûr.
Lesquelles ?
Alors là, on va avoir de la bournette, on va avoir de la bouche de bétisac. Il y a beaucoup de produits qui vont s'enchevêtrer. Et ça, c'est tout l'intérêt de pouvoir récolter d'une façon plus lente, quoi.
On va parler bien sûr des avantages que vous avez peut-être à avoir cette marque Esprit Parc. Je te laisserai faire le lien avec Viviane juste après. Je voulais savoir au niveau des collectivités territoriales, etc., comment vous êtes aidé, soutenu, si vous l'êtes, et si vous ne l'êtes pas, est-ce que ça pourrait changer sans langue de bois, bien sûr.
Oui, les collectivités territoriales font beaucoup d'efforts pour organiser des marchés paysans. Ça, on va en avoir de plus en plus, mais j'observe que ces marchés dépérissent, en fait. Parce que c'est comme, premièrement, il y a souvent des 30 à 40 euros de participation, ce qui n'est pas donné. Et on ne met pas obligatoirement les producteurs en exergue. C'est souvent des gens qui vont revendre, etc. Et ça, c'est difficilement admissible dans le sens qu'on va proposer aux consommateurs un marché de producteurs. Bon, le marché de producteurs, c'est des producteurs, c'est des agriculteurs qui sont là, qui font un produit, qui créent éventuellement, mais qui font d'eux-mêmes, quoi. C'est difficilement envisageable que ça soit de la revente.
Donc, en tout cas, le message est passé. Plus de...
Oui, plus de rigueur sur les marchés. Voilà. Après, nous dépendons de tous, on voit petit à petit des distributions de la PAC. Hein. Aujourd'hui, un agriculteur, s'il veut vivre correctement, est obligé d'avoir les distributions de la PAC. Et ça, il faut aider les jeunes, justement, à obtenir des surfaces. Ça, les collectivités, on travaille là-dessus. Permettre aux jeunes d'obtenir par le biais d'aide directe, mais surtout d'aide au niveau de la population. Permettre aux gens de louer leurs terres de façon à ce qu'ils aient, l'agriculteur puisse bénéficier des surfaces nécessaires à sa vie, à sa survie, quoi, en fait.
Et pour vous, l'avantage d'avoir la marque Esprit Parc
Moi, j'ai toujours été attaché depuis l'âge de 15 ans au parc national. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je voulais être garde à cheval quand j'étais petit. Donc, c'était mon rêve. Et puis, j'ai suivi l'évolution du parc. Et quand j'ai fait le choix d'être agriculteur, j'ai dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu arrives à obtenir la marque. Donc, je l'ai obtenu en 2017. Et je suis vraiment content parce que c'est le seul label que j'ai, en fait. Je suis même pas en bio. Je pense que c'est largement suffisant et je communique sur cette sur la marque Esprit Parc National. Alors quand on va sur les marchés Montpellier, Nîmes, etc., c'est quelque chose qui ouvre bien. Après, sur les marchés en Cévennes, c'est vrai que les gens, ils connaissent, quoi. C'est pas...
J'espère.
Et justement, Viviane, la marque fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Alors, par rapport aux produits agricoles, quel bilan peut-on faire ?
Eh ben, aujourd'hui, c'est une marque qui compte à peu près une quarantaine de producteurs. On a des producteurs qui sont... donc, c'est surtout des producteurs de fruits et légumes, donc beaucoup de castanéiculteurs et des maraîchers. Et des viticulteurs aussi, on a plusieurs viticulteurs. Même si ce n'est pas la production principale des Cévennes, et des apiculteurs. Voilà, c'est un peu les trois productions principales. Et puis après, sinon, on peut retrouver aussi deux producteurs de viande. Donc ça, on aimerait bien qu'il y ait plus de producteurs de viande.
C'est ce qui manque un peu, hein, parce oui. que là, les chiffres, hein, j'ai noté, donc les maraîchers, 25 producteurs, 8 apiculteurs, 2 producteurs de viande et 6 vignerons. C'est vrai que bon, la viande, comment... Ça s'explique ?
Alors, ça s'explique parce que la viande se commercialise surtout en circuit court, en circuit long, justement. Donc, plutôt, on va vendre aux maquignons, etc. Donc, ça s'explique surtout par ça. Et les éleveurs qui vendent en circuit court, en général, c'est des caissettes. Donc, ils vont pas vendre sur les marchés ou des choses comme ça. Donc, c'est des circuits qui sont vraiment particuliers. Mais c'est vrai que, paradoxalement, c'est quand même la production, les moutons, les vaches, etc. C'est les chèvres, c'est les produits des Cévennes. Enfin, c'est l'agriculture du parc. C'est quand même beaucoup l'élevage. Et c'est vrai que c'est dommage. Et nous, on aimerait bien que la viande soit un peu plus représentée dans cette marque-là.
Alors Eric nous disait que lui, il appréciait beaucoup ça, que c'était un label qui valait largement le label AB, et je suis assez d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a des réticences parfois ? Est-ce que tu sens des réticences sur le terrain de la part de certains producteurs par rapport au parc ? Est-ce qu'il y a besoin de pédagogie et d'expliquer pourquoi c'est important, pour ce que vous faites, etc.
Alors des réticences, ben, on a toujours un... Le parc a toujours une relation un peu compliquée aussi avec les éleveurs, donc plutôt notamment en cœur de parc où il y a la réglementation qui s'affiche. Donc du coup, c'est vrai que ça donne pas forcément envie aux producteurs de s'afficher partenaire du parc, ça c'est vrai, et notamment par rapport au regard des collègues, hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, au niveau, c'est plutôt que la marque n'est pas encore assez connue, je pense. Elle n'est pas suffisamment connue. Donc, au début, nous, on n'est pas des commerciaux, hein, au parc. C'est pas notre cheval de lance aussi. Donc, c'est vrai qu'au début, sur cette marque, on a préféré partir doucement et partir au fur et à mesure. Donc, avec les gens qui étaient plutôt volontaires. Et là, ça fait depuis l'année dernière qu'on lance des appels à candidature pour toucher davantage de monde. Mais c'est vrai qu'on fait aussi très attention parce que l'idée, c'est pas que tous les producteurs rentrent à la marque. Il y a des cahiers des charges.
Bien sûr.
Donc des cahiers des charges qui sont aussi assez stricts. On souhaite que ce soit des gens qui respectent le cahier des charges. Donc après...
Oui, pardon. Justement, par rapport... Enfin, parce que chaque... On parle de RUC, donc c'est du règlement d'usage catégoriel. Donc pour le vin, forcément, on n'a pas demandé les mêmes critères. Mais est-ce qu'il y a des critères transversaux? Enfin, les principaux, la base. C'est quoi la base?
Alors, on demande des critères qui sont favorables à l'environnement, qui sont favorables à la biodiversité. On s'est pas mal appuyé sur les critères bio, mais pas que. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour tout ce qui est viande, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les cahiers des charges sont rédigés à l'échelle de tous les parcs nationaux. Donc ça a été beaucoup de discussions, beaucoup de négociations aussi, parce que tous les contextes sont différents. Et par exemple pour la viande, là où on était tous d'accord au niveau des parcs nationaux, c'était qu'il fallait favoriser l'utilisation des milieux naturels et la préservation des milieux naturels. Au-delà du bio, aller sur la préservation, sur le pastoralisme, sur la préservation des prairies naturelles. Voilà, ça c'était des critères qui étaient très importants. Voilà, et après sur tout ce qui est maraîchage, viticulture, là on s'est vraiment appuyé sur les critères de l'agriculture bio, mais on a rajouté des critères locaux d'implication dans le territoire, d'utilisation de variétés locales, enfin voilà, de préservation de la ressource en eau, voilà, des choses qui qui allait plus loin.
Est-ce que, monsieur Brunet, vous êtes en lien avec d'autres producteurs qui ont le label Esprit Parc? Est-ce qu'il y a un petit réseau, même que ce soit avec des hébergeurs? Est-ce que vous fournissez des produits à des hébergements qui pourraient avoir la marque Esprit Parc? Et on en a eu cette année quand même quelques-uns dans le secteur autour d'Anduze et Saint-Jean.
Tout à fait. Alors, moi, pour l'instant, non, je n'ai pas directement de camping, enfin d'hébergeurs qui vendent mes produits. C'est un peu ma faute parce que j'ai pas voulu prospecter dans ce sens-là. Par contre, on se rencontre assez souvent dans les réunions du parc. Là, dans les deux dernières années, le parc a organisé des réunions pour nous aider dans la commercialisation. Et ça, c'était intéressant donc de rencontrer d'autres personnes qui étaient pas obligatoirement sur le monde agricole et qui nous permettaient d'avoir des relais, de tisser un ensemble de bénéficiaires de la marque. Et ce que je voulais dire, je voudrais compléter par rapport à ce que disait Liliane, sur le mouton, depuis quelques années, lors d'une réunion, je me souviens, Liliane, tu nous disais qu'il faudrait que je passe au mouton. Alors moi, je suis plutôt machinisme, donc le débroussaillement, etc., tout ça, ça se fait avec des tracteurs. Et je ne suis pas encore passé sur le mode beaucoup plus souple d'avoir un troupeau de moutons qui va entretenir ma châtaigneraie. Et je pense que c'est l'avenir. Et c'est comme ça qu'on va peut-être pouvoir allier la châtaigne et le mouton et en même temps donner une autre dimension à cette production de moutons, de viande ovine.
L'agroforesterie,
par exemple.
Il y a une éleveuse à Saint-Romain-de-Touze qui a commencé à faire ça et ça a l'air absolument génial. J'ai encore plein de questions, mais je pense que...
Une petite dernière. Où est-ce qu'on peut trouver vos produits, mis à part cet après-midi, donc sur le marché de producteurs, place couverte jusqu'à 18h?
Sur Anduze, vous avez Prime Vert, Anduze. Si sinon, directement chez moi, on m'appelle, on téléphone, masse de lait, et puis je peux donner mon numéro de téléphone ou...
Avec plaisir, on le mettra en lien sur nos sites.
Merci, 06 71 37 77 54.
Masse de lait à Saint-Sébastien d'Aigrefeuille. Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Et bon marché.
Merci. Vous êtes bien sur Radio Bartas et sur Radio Intervalle. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Il reste une toute petite partie sur le patrimoine culturel immatériel. On fait une petite pause musicale et on se rejoint dans un instant.
Oula, faut que j'envoie ces lettres. Faut que je rappelle mon père d'abord. Faut que je prévoie cette fête que j'ai promis de faire pour le disque d'or. Faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis. Déjà il y a 5 jours que demain je la contacterai c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc là qu'elle a sorti. Un podcast sur les interdits que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Et puis faut que je poste un beau contenu, je sais pas, un truc nouveau. Et vu le temps que je passe dessus, beaucoup trop peu pour que ce soit beau. Ça va être nul et le pire c'est que je vais réussir à trouver un autre que moi à qui en vouloir pour ça.
Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire, je vais me relever.
À côté de ça, il y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappellent qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend tout court. Alors, il y a l'amour des enfants, avec ça, tu manques plus de rien. Moi, je les aime tellement, justement, que j'ai tout le temps peur de pas faire bien. Faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père. La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière. À quoi sert vraiment l'exigence ? Quand on souhaite être excellent, quand on voit dans quelle déshérence se retrouvent les génies souvent. Moi je voudrais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant. Je voudrais leur apprendre à être heureux souvent, souvent. Mais ce que je veux pour eux, ce que je veux, c'est bien moins important que ce que je suis. Les gamins, c'est faites ce que je fais, pas faites ce que je veux, encore moins faites ce que je dis. Dans ce cas-là, tant mieux pour la musique, tant mieux pour l'énergie, tant mieux pour les envies. Et pour le reste, pardon, tant pis, pardon, tant pis, pardon, tant pis.
j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Sans flancher en jambes, le chantier des pensées qui semblait emmêlé. Je m'y collais sans délai, mes soucis prenez-les et l'angoisse tenez-la bien. Je vais shooter tant comme elle vient. Faut que je marche parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
Le musicien avait envie de plaquer les accords, c'est génial. Vous êtes bien sur Radio Bartas et sur Radio Intervalle en direct de la journée du Parc National des Cévennes qui cette année se fait à Anduze, ça change tous les ans. Et cette année, nous avons le bonheur d'être accueillis dans le bureau de Madame le maire pour ce studio exceptionnel. Léo est toujours à la technique. Je salue Radio Intervalle, je m'excuse pour la petite musique de fond que vous avez eue pas très longtemps, voilà, ça arrive. Mais on est bien, Natacha est toujours avec moi, tout va bien Natacha ?
Je suis toujours là, Ben, vous mal, aussi, hein. Mais vous n'êtes pas très en forme aujourd'hui, on est un peu malade.
Ça va aller. Je suis avec toi, tout va bien.
Et donc, nous allons parler pour ce dernier plateau du patrimoine culturel immatériel. Pour cela, nous sommes en compagnie de Monique Carlier, ethnobotaniste. Bonjour.
Bonjour, Natacha. Bonjour, Ben.
Et de Eddy Balaï, donc chargé de mission valorisation des patrimoines au parc.
Et bonjour.
Bonjour. Déjà, peut-être. Qu'est-ce qu'on appelle patrimoine culturel immatériel ? Ça se définit comment ?
Alors, on parle de patrimoine immatériel, c'est un peu en réaction au fait que souvent le patrimoine a été envisagé pour sur son côté matériel, château, musée, enfin voilà, des choses comme ça. Et en fait, on négligeait, enfin pendant quelques temps, on a un peu négligé tout ce qui était immatériel, c'est-à-dire en gros les pratiques, des savoir-faire, également tout ce qui relève des contes, des légendes, des récits, des chants, etc. Alors c'est vrai que ça fait un peu bizarre de distinguer un peu les deux, parce qu'on ne peut pas parler spécialement du patrimoine immatériel sans qu'il y ait un aspect matériel, mais c'est une façon en fait de prévoir une meilleure reconnaissance de ces pratiques. Et c'est par ailleurs reconnu maintenant aussi à l'échelle de l'UNESCO, tout ce patrimoine immatériel, ça fait aussi l'objet de mesures de protection à travers le monde.
Une langue régionale, ça fait partie du patrimoine culturel immatériel. Tu parlais de contes, une langue.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, une langue, c'est indépendamment de la définition de la langue telle qu'on peut la voir, c'est surtout un vecteur de pratique, un vecteur de plein de choses qui sont le vécu des populations. Donc c'est complètement effectivement dans le patrimoine immatériel.
Alors, il y a plein d'organismes aujourd'hui qui travaillent sur le patrimoine immatériel. Hein. On voit l'Entente à Florac par exemple. Comment vous travaillez au niveau du parc pour le protéger et le valoriser ?
Alors au niveau du parc, depuis sa création, il y a eu pas mal de programmes qui ont collecté notamment de la mémoire pour effectivement mieux connaître des aspects sur les pratiques pastorales, par exemple, ça a pu être le cas. Sur effectivement tout ce que je disais, le caractère aussi festif, hein, il y a eu plein de collectes sur les chants, les chansons qui ont été faites. Il y a eu un âge d'or de ces collectes dans les années 90-2000. On peut citer notamment les travaux qui ont été faits par Jean-Noël Pelin, par Nicole Coulon sur le Mont Lozère, par Pierre Laurent sur les vallées Cévenoles. Donc c'est des personnes qui ont travaillé comme ça, qui ont été, alors le cadre était plus ou moins soutenu par l'établissement du parc. Ils se sont épanouis principalement sur ces années-là, et ça s'est poursuivi encore aujourd'hui. On a jusqu'à nos jours eu plusieurs plusieurs actions. Notamment, vous citiez avec l'entente, on a pu travailler aussi sur tout ce qui était lié aux pratiques agro-pastorales. On a un ethnologue, Guillaume Lebaudy, qui avait travaillé dans les années 2019-2020 à inventorier un petit peu les choses autour de ces pratiques pastorales. Et plus récemment encore, on a travaillé plutôt sur un aspect ethno-botanique, avec un lien fort aussi à cette langue occitane qu'on évoquait là juste à l'instant.
Mais justement, la langue occitane est un vecteur important pour la transmission des savoirs et des savoir-faire, donc concernant les plantes. Monique, est-ce que vous pourriez nous expliquer le travail que vous avez effectué pour le parc national, justement ?
Donc moi, en fait, j'ai effectué deux missions en 2019 et en 2020. Le but, c'était de, sur une liste d'espèces qui avaient été répertoriées sur le parc, retrouver leurs usages et le nom vernaculaire, le nom en occitan qui était utilisé. En sachant que la nomination, c'est quelque chose de très particulier, ce n'est pas un simple nom, ça n'a rien à voir avec la classification savante, qui est très rationnelle. La classification occitane et les nominations, ce sont des noms qui vont être donnés et qui vont faire tout de suite sens ou image mentale, qui ont une signification. C'est une classification qui va se transmettre de façon orale, et donc en fait, il faut qu'elle soit aisément mémorisable pour pouvoir ensuite être transmissible et mémorisée longtemps.
Donc et c'était une compilation, il y a plus de 240
plantes, je crois, et nous avons trouvé plus de 575 dénominations relatives à ces plantes.
Est-ce que il y avait peut-être des plantes que vous pensiez disparues que vous avez retrouvées ou des découvertes simplement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait?
Alors au niveau des plantes, la liste sur laquelle j'ai travaillé, c'était des plantes qui étaient qui poussaient sur le territoire du parc et qui avaient été répertoriées et utilisées, qui étaient soumises à la cueillette. Donc des plantes qui étaient encore utilisées, pas de façon forcément traditionnelle, mais qui étaient déjà cueillies. Ce que l'on peut en dire, les belles surprises, c'est qu'une fois de plus, enfin, on n'avait pas besoin de ça pour le démontrer, mais c'est que la langue occitane est vraiment une grande richesse. Et au niveau des classifications, c'est vraiment des choses qui font sens.
Par exemple,
au niveau des nominations, c'est une mémoire qui va s'ancrer dans le corps. Donc en fait, c'est une mémoire qui est très sensitive et très sensible. Donc on va faire, pour reconnaître une plante et pour la nommer, on va s'appuyer sur une caractéristique, par exemple, visuelle. Les plantes bleues, par exemple, souvent, on les appelle bluettes ou quelque chose qui a un rapport avec la couleur. Ça va être au niveau du toucher. Par exemple, la pilocèle, qui est une plante avec plein de petits poils, on va l'appeler péludelle. Pélude, ça veut dire poilu. Ce sont des choses qui vont tout de suite faire image et qui vont permettre de les retrouver. Par exemple, au niveau de l'ouïe, le silène gonflé, le silène qui souvent les enfants s'en servaient pour faire des jeux, pour les faire éclater, ça va s'appeler pétarelle, par exemple. Pareil pour le goût. Un buglossoïde, le thé d'Europe, ça va s'appeler, au niveau des noms qui sont donnés, c'est thé des crapauds. C'est pour dire que c'était vraiment pas terrible quoi, au niveau du goût. Ou alors c'est aussi herbe de la pissagne, pour souligner les propriétés diurétiques. Et donc en fonction des caractéristiques, ou chaque fois le nom, il y a plusieurs noms. Ce qui fait qu'une même plante peut avoir plusieurs nominations. Indépendamment du fait que d'un côté ou de l'autre du Mont Lozère, c'est pas forcément la même appellation, parce qu'on n'en fait pas forcément le même usage. Et puis après, il y a aussi toutes les choses par rapport aux particularités occitanes de chaque découpage géographique. Mais bon, ça, voilà. Mais ça peut être aussi du domaine du métaphorique au niveau du nom. Par exemple, le narcisse, qui est une petite fleur toute jolie et qui est légèrement penchée sur sa tige, ça s'appelle courbedonne, c'est-à-dire la dame penchée. Ça peut être du domaine du poétique, de l'analogique. Par exemple, le chèvrefeuille, au niveau de la fleur, ça s'appelle par exemple popotécabre, c'est-à-dire la tétine pour les chèvres, ou alors corne des lèbres, c'est-à-dire oreille de lapin. Ça peut être des indications sur le lieu où on va pouvoir trouver la plante. L'asperge sauvage, par exemple, ça va être un nom qui va être en rapport, qui va indiquer où c'est qu'on va pouvoir la trouver. Donc ça va être au niveau du nom, ça, c'est quelque chose au niveau... alors, attendez.
Sur des périodes de cueillette aussi,
périodes, ça peut être aussi des repérages calendaires. Par exemple, il y a des fleurs qui s'appellent le pascalette, parce qu'en fait, elles poussent autour de la période de Pâques. Ça peut être aussi... il y a des salades qui ça s'appelle herbe de Saint-José, parce qu'en fait, c'est juste pour indiquer la période de cueillette qui va être de décembre jusqu'au 19 mars. Et le 19 mars, c'est la Saint-Joseph, et à ce moment-là, c'est plus la peine de l'accueillir. Donc, c'est vraiment des repères qui sont dans le temps, sur des caractéristiques, vraiment sur des choses très singulières.
C'est passionnant. Est-ce que c'est l'Occitan qui vous a amené aux plantes, ou les plantes qui vous ont amené à l'Occitan, ou ça s'est fait en même temps ?
Non, ça s'est fait en même temps.
C'était naturel pour
moi. Mais en fait, moi, j'ai une grand-mère qui ramassait beaucoup les salades sauvages et qui ramassait beaucoup de végétaux, et donc qui était lozérienne, et qui déjà, donc en fait, quand on faisait la cueillette avec elle, elle les nommait. Donc c'était quelque chose qui était familier, déjà familier. Plus la curiosité, et puis l'occasion de cette belle mission.
Eddy, est-ce que vous avez vu votre travail évoluer depuis toutes ces années ? Est-ce qu'aujourd'hui, on prête plus attention au patrimoine immatériel ?
C'est alors, à l'échelle de moi, de ce que j'ai pu faire, ça n'a pas beaucoup évolué. Par contre, c'est vrai que sur le temps plus long, effectivement, on a une meilleure attention sur cet aspect-là. Au niveau de l'établissement, on s'est rendu compte, et on nous a fait remarquer plusieurs fois, qu'effectivement, on ne prenait pas assez en compte la langue occitane dans notre action. Et donc, on a quelque part, c'est vrai qu'on a tenté de rectifier ça. On n'est pas encore tout à fait au point. Hein. Il y a encore des actions à mener. Mais on progresse, on voit à travers ce travail... Voilà, qu'on a pu apporter plus d'attention, et c'est vrai que ça a tissé un lien intéressant entre, j'allais dire, les sciences dures, et puis effectivement, on avait cet inventaire Flore, tu disais tout à l'heure, avec sa propre rigueur d'inventaire, etc. On est venu lui apporter quelque chose de très fin, de très sensible, de très subjectif. Et donc ça a permis aussi, ça a permis, voilà, de mieux intégrer l'Occitan sur ces aspects-là. On a d'autres pistes, en fait, hein, pour progresser aussi sur ces... sur la prise en compte de l'Occitan, et notamment par le biais du volet éducatif. On a une chargée de mission dans notre service éducatif qui systématiquement maintenant, dans les actions qu'elle mène, pas forcément que sur la flore là pour le coup, intègre l'Occitan. On a tout un travail actuellement, notamment sur la préhistoire en Lozère, préhistoire dans le parc, et à travers ça, on aborde aussi l'Occitan sous la forme de contes, de légendes autour du patrimoine mégalithique par exemple. Donc en fait, on peut vraiment venir, j'allais dire, impulser un petit peu de prise en compte de l'Occitan sur un certain nombre de thématiques qu'on développe aujourd'hui.
Donc on parlait des plantes en Occitan, mais les lieux dits aussi, la toponymie, il y a toute une histoire aussi avec l'Occitan.
C'est un chantier qu'on a, entre guillemets, un chantier qui a été effectivement identifié par notre... on a une commission patrimoine culturel au niveau du parc qui nous a effectivement régulièrement souligné que ça serait intéressant de travailler sur la toponymie. Alors, on ne réinvente pas les choses. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont déjà un peu avancé sur ces questions. C'était le cas aussi pour la flore. Mais quelque part, on reprend un petit peu le sujet, et on met en place des actions un peu plus concrètes, un peu plus modernes sur ça. Effectivement, la toponymie, c'est quelque chose de passionnant qui passionne vraiment tous les publics, sur lequel on peut venir s'appuyer et développer des projets très très divers.
Parce que ça va, c'est le simple panneau en bord de route, mais pourquoi ça s'appelle comme ça, un simple panneau ? On dit long sur l'histoire du lieu.
C'est ça, c'est pas simplement dire ce que ça signifie, c'est tout le vécu que ça...
Voilà.
Effectivement, on ne cesse de le dire, mais effectivement, ça, c'est support effectivement, de toute une histoire et de choses très...
Le moindre lieu, la moindre plante, en fait, ça dit beaucoup plus, bien au-delà de la simple signification.
Bien sûr.
Il y a toute une histoire, toute une culture, un usage.
Peut-être une légende.
Au niveau de la toponymie, à un moment, jusqu'au début 20e, il n'y avait pas de carte de géographie, pas de carte. Et donc, pour se repérer, il fallait bien s'appuyer sur les les éléments les plus singuliers du paysage, et puis on les nommait, et puis pour pas oublier, ben, on racontait souvent une petite histoire. L'arbre de la fée, le bronc du diable, enfin, quelque chose qui était marquant et qui fait que ben, tout le monde dans un village savait que quand on se disait rendez-vous au pont du diable, ça avait la même signification. Autrement, comment faire mémoire commune si on n'a pas de représentation? Maintenant, on a des portables, des cartes, mais avant, c'était pas ça. Donc, il fallait bien enchanter le paysage pour pouvoir effectivement s'y repérer et évoluer dans ce paysage-là.
C'est beau, enchanter le paysage.
Ça, c'est clair, c'est vachement beau. Est-ce que vous êtes plusieurs à faire ce genre de métier? Est-ce qu'il y a des partages? Est-ce que vous connaissez d'autres ethnobotanistes qui font la même chose?
Alors, moi, je ne suis pas ethnobotaniste, je suis ethnologue. Suis ethnologue.
Non, effectivement.
Donc, j'appréhende le végétal dans la mesure où c'est un patrimoine immatériel. Et voilà.
Sur le territoire, donc, effectivement, il y a quand même. Excuse-moi, je te coupe la parole. Il y a d'autres, effectivement, de personnes qui travaillent sur ces questions-là. Il y a quelques années, quelqu'un qui s'appelle Alain Renaud, qui travaille toujours là-dessus, mais qui a notamment eu un ouvrage qui a fait référence. Ouais. Et qui a fait l'objet d'ailleurs d'un film qui a été tourné par Raymond Achilly, hein, le savoir en herbe, pour le nom de l'ouvrage. Et puis il y a un certain nombre d'ethnobotanistes qui travaillent sur le territoire. Ou à proximité, on peut citer Josiane Hubeau, qui édite pas mal d'ouvrages.
Qui est botaniste et lexicologue occitane.
Donc voilà, c'est un sujet qui occupe pas mal de personnes. Sur le territoire.
Sophie Lemonnier aussi.
Oui, Sophie Lemonnier qui relie aussi en plus à tout ce qui est lié au conte. C'est assez intéressant aussi à aborder. Quoi.
Oui, qui travaille sur ces deux versants, le patrimoine végétal et patrimoine rural.
Il y a beaucoup de passerelles entre tous ces sujets.
Bah, c'est la culture.
Et je vous conseille, auditeurs, auditrices, parce que toutes celles et ceux qu'on vient de citer là donnent vraiment souvent des petits spectacles où font partager leur savoir, et c'est absolument merveilleux. À chaque fois que vous avez la chance d'être avec eux, ils vous emmènent. Et puis c'est parti. Enfin, voilà. Je ne fais que conseiller.
C'est la fin de cette émission.
Eh ben oui, déjà, c'est passé à une vitesse. Merci beaucoup, Natacha.
Merci Ben, merci Monique, merci Eddy. Et donc, je rappelle qu'il y a des animations, des ateliers, des spectacles tout l'après-midi à Anduze. Donc, rendez-vous place couverte, place des Troubadours ou salle 1000 Club s'il pleut, espace Pellico. Et donc, ce soir, je rappelle qu'il y a un apéro-débat à 19h, salle Rouen, rue Pellico, en présence donc de Geneviève Blanc, maire d'Anduze, du président et du directeur du parc national, donc où vous pourrez poser toutes vos questions. Et vous pourrez également déguster les préparations culinaires des lycéens de Saint-Jean-du-Gard, du lycée hôtelier. Et voilà, je crois que j'ai tout dit.
Moi, je rajouterai juste une toute petite chose pour Radio Bartas, si vous êtes intéressé. Demain, dimanche, nous un plateau à 10h à l'Entente à Florac, avenue Jean Modestier, sur le patrimoine bâti dans le cadre des Journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end. Merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sur Radio Bartas, restez bien sur l'intervalle, restez bien et écoutez les radios associatives, le local. Il n'y a que ça de bon, il n'y a que ça de vrai. Merci beaucoup à Léo qui était à la technique. À très vite. Ciao.
Vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit-il, c'est que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette genoie en pleurs. C'est là que je suis née. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque, elle est nue de souhait. Impossible, elle est nue. Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie toujours pour ces gens-là. Cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un
si haut qu'il semble aller lentement. Un grand vol en forme de triangle arrive, planer passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol. Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages.